Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse. Institut de formation publique. Examen final de français 2026. Niveau E6. Épreuve de compréhension orale. Vous allez entendre trois enregistrements correspondant à trois exercices différents. Pour chaque exercice, vous aurez une minute pour lire les questions, une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez en cochant la bonne réponse. Vous avez une minute pour lire les questions. Première écoute.
Nombre d'entre nous ont du mal à modifier leurs habitudes, notamment laisser son téléphone portable de côté, éviter de l'emporter à la plage. Ça porte d'ailleurs un nom, tous ces malheureux sont atteints de namophobie. Christy Lapelle-Edouel, elle répond à Sandrine Marcy.
À nouvelle technologie, nouvelle terminologie. La nomophobie est une contraction de l'expression américaine no mobile phobia, autrement dit la phobie de se retrouver sans portable, qui déclenche chez certains de véritables crises d'angoisse.
Est-ce qu'on peut parler pour ces personnes d'une vraie pathologie ?
Alors, pour le moment, cette phobie n'est pas encore entrée dans le vocabulaire médical, au même titre que l'aérophobie ou la claustrophobie, mais néanmoins, ce comportement est observé par des psychologues et des psychiatres lors de leurs consultations. Mais avant de parler de pathologie, pour l'instant, les professionnels préfèrent prudent parler de tendance phobique.
Alors c'est vrai, c'est très désagréable de perdre son portable, mais comment cela peut-il entraîner une vraie crise d'angoisse ou de manque ?
Alors il y a plusieurs étapes avant d'en arriver là. D'abord, l'usage intensif, puis l'abus, comme ceux qu'on peut voir ici ou là, qui sont sans cesse accrochés à leur écran, le regard rivé sur leur téléphone et l'oreille collée sur leur oreillette. Et puis l'addiction, la dernière étape, c'est impossible de se passer de cet appareil. On dort avec, on mange avec, on marche avec, on parle aux autres avec. Et si cet objet, qui est devenu une sorte de prolongation de soi, de prolongation de sa main, disparaît, c'est une perte qui est vécue comme irréparable.
On peut se demander comment certaines personnes en arrivent à ce point-là.
Pour plusieurs raisons. Le portable, c'est d'abord le cordon qui nous relie aux autres, au monde et puis à notre univers. Nos amis, nos conversations, notre agenda, nos jeux, nos photos, c'est un petit peu comme si nous transportions notre maison avec nous. En tout cas, ce qui nous est le plus intime, le plus précieux. Stéphanie Berthelon, qui est psychologue, souligne que, je cite, « la richesse et la polyvalence de l'objet ont façonné de nouveaux comportements. Son absence génère des sensations corporelles, anxiété, préoccupation et des pensées angoissées. Comment je vais m'occuper pendant mon trajet dans le métro ou comment est-ce que je vais trouver mon chemin ?» Et puis, le téléphone, c'est aussi un geste. Avoir les mains occupées pour les timides ou les anxieux, c'est se donner une contenance.
Il y a la peur d'être isolé, en fait.
Oui, Le téléphone nous relie aux autres, ça c'est évidemment son objectif numéro un, à nos proches, à nos enfants, à notre famille. Et c'est une angoisse, ça répond à une angoisse qui est constitutive des êtres humains, mais que ce petit objet apaise. Et puis, dans cette angoisse de perdre ou d'avoir perdu son téléphone, il y a aussi l'angoisse de voir son intimité violée. Cet objet dans la nature, quelque part on ne sait pas où, c'est donné à d'autres la possibilité d'entrer chez nous et de nous dérober nos secrets. Et cela peut être vraiment insupportable.
Bon, alors maintenant, comment éviter ce genre de piège ?
Eh ben, en s'observant soi-même, ou en demandant à notre entourage de nous signaler si nous exagérons. Alors évidemment, ça demande une petite prise de conscience préalable, et puis aussi en sauvegardant tout bêtement nos données régulièrement pour éviter cette peur de la perte.
Vous avez une minute pour répondre aux questions. Deuxième écoute.
Nombre d'entre nous ont du mal à modifier leurs habitudes, notamment laisser son téléphone portable de côté, éviter de l'emporter à la plage. Ça porte d'ailleurs un nom, tous ces malheureux sont atteints de namophobie. Christy Lapelle-Edouel, elle répond à Sandrine Marcy.
À nouvelle technologie, nouvelle terminologie. La nomophobie est une contraction de l'expression américaine no mobile phobia, autrement dit la phobie de se retrouver sans portable, qui déclenche chez certains de véritables crises d'angoisse.
Est-ce qu'on peut parler pour ces personnes d'une vraie pathologie ?
Alors, pour le moment, cette phobie n'est pas encore entrée dans le vocabulaire médical, au même titre que l'aérophobie ou la claustrophobie, mais néanmoins, ce comportement est observé par des psychologues et des psychiatres lors de leurs consultations. Mais avant de parler de pathologie, pour l'instant, les professionnels préfèrent prudent parler de tendance phobique.
Alors c'est vrai, c'est très désagréable de perdre son portable, mais comment cela peut-il entraîner une vraie crise d'angoisse ou de manque ?
Alors il y a plusieurs étapes avant d'en arriver là. D'abord, l'usage intensif, puis l'abus, comme ceux qu'on peut voir ici ou là, qui sont sans cesse accrochés à leur écran, le regard rivé sur leur téléphone et l'oreille collée sur leur oreillette. Et puis l'addiction, la dernière étape, c'est impossible de se passer de cet appareil. On dort avec, on mange avec, on marche avec, on parle aux autres avec. Et si cet objet, qui est devenu une sorte de prolongation de soi, de prolongation de sa main, disparaît, c'est une perte qui est vécue comme irréparable.
On peut se demander comment certaines personnes en arrivent à ce point-là.
Pour plusieurs raisons. Le portable, c'est d'abord le cordon qui nous relie aux autres, au monde et puis à notre univers. Nos amis, nos conversations, notre agenda, nos jeux, nos photos, c'est un petit peu comme si nous transportions notre maison avec nous. En tout cas, ce qui nous est le plus intime, le plus précieux. Stéphanie Berthelon, qui est psychologue, souligne que, je cite, « la richesse et la polyvalence de l'objet ont façonné de nouveaux comportements. Son absence génère des sensations corporelles, anxiété, préoccupation et des pensées angoissées. Comment je vais m'occuper pendant mon trajet dans le métro ou comment est-ce que je vais trouver mon chemin ?» Et puis, le téléphone, c'est aussi un geste. Avoir les mains occupées pour les timides ou les anxieux, c'est se donner une contenance.
Il y a la peur d'être isolé, en fait.
Oui. Le téléphone nous relie aux autres, ça c'est évidemment son objectif numéro un, à nos proches, à nos enfants, à notre famille. Et c'est une angoisse, ça répond à une angoisse qui est constitutive des êtres humains, mais que ce petit objet apaise. Et puis, dans cette angoisse de perdre ou d'avoir perdu son téléphone, il y a aussi l'angoisse de voir son intimité violée. Cet objet dans la nature, quelque part on ne sait pas où, c'est donné à d'autres la possibilité d'entrer chez nous et de nous dérober nos secrets. Et cela peut être vraiment insupportable.
Bon, alors maintenant, comment éviter ce genre de piège?
Eh ben, en s'observant soi-même, ou en demandant à notre entourage de nous signaler si nous exagérons. Alors évidemment, ça demande une petite prise de conscience préalable, et puis aussi en sauvegardant tout bêtement nos données régulièrement pour éviter cette peur de la perte.
Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Exercice 2. Lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez en cochant la bonne réponse. Vous avez une minute pour lire les questions. Première écoute.
Aujourd'hui, comme chaque vendredi, un sujet éducation. Nous parlons des échanges d'étudiants européens, Erasmus, dans les campus universitaires de toute l'Europe. Fête ses 25 ans cette année. Au total, 33 pays, donc une Europe très élargie, et plus de 4000 universités et grandes écoles concernées. Erasmus est l'un des plus grands programmes de mobilité étudiante au monde. Alors comment fonctionne-t-il? Qu'apporte-t-il aussi sur le plan universitaire, personnel, professionnel? Est-ce si facile que cela de se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien, dans un système universitaire parfois très différent? En finançant des bourses de mobilité, en tout cas Erasmus a tenté de forger une véritable identité européenne. Certains d'entre vous sur Facebook s'interroge aussi sur l'extension d'Erasmus au-delà de l'Europe jusqu'à l'Afrique. Ça existe, ça s'appelle Erasmus Mundus. Amélie Niard, dans sa chronique Info pratique de l'éducation, nous expliquera en détail comment postuler à ces bourses Erasmus Mundus. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission donc pour suivre ces infos-là. Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'un étudiant, ex-étudiant Erasmus. Sylvain a 25 ans. Sur son CV, on peut lire « Master de droit public obtenu à Lille ». Et juste en dessous, une autre ligne, « Université de Wrocław ». Il rêvait d'étudier aux États-Unis. Il a atterri dans une ville de Pologne où il a étudié pendant un an grâce à Erasmus. Sylvain a accepté de rembobiner son histoire polonaise au micro de Vincent Dublange.
On on était dans une grande tour d'une vingtaine d'étages. À chaque étage, il y avait des appartements. Et dans les appartements, on était quatre, deux par chambre.
Il y avait combien de nationalités avec toi ? Il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup de Polonais, il y avait quoi, des Australiens, il y avait...
Alors, pour être honnête, ce qui était bien, c'est qu'en français, on n'était pas beaucoup, je veux dire, une petite dizaine. Donc, ce qui était bien, c'était quand on se sentait mal, on avait la nostalgie du pays, ben, on pouvait parler quand même dans un petit groupe. Mais d'un autre côté, on n'était pas assez nombreux pour s'enfermer sur nous-mêmes. C'était le problème des Espagnols. Les Espagnols, ils devaient être 60, voire 70. Pour certains, ils sont restés dans cette communauté, ils n'ont pas pu vraiment échanger avec les autres.
Vous faisiez des choses ensemble dans cette résidence ?
C'était un peu comme une grande colonie de vacances, mais sans adultes et sans moniteurs. Donc, bah, évidemment, il y avait des soirées, il y avait beaucoup de soirées qui étaient organisées qui favorisaient les rencontres. Mais aussi, par exemple, on avait une tradition qui s'appelait les repas internationaux. C'est-à-dire qu'on démontait nos portes de chambre pour en faire des tables géantes dans les couloirs.
Et c'était une idée à toi, je crois, de démonter les portes.
Oui, je la revendique, même si à l'époque, je me faisais tout petit, parce que l'administration de la résidence n'appréciait pas plus que ça. Donc, chacun ramenait un plat de son pays. Et justement, autour d'un repas, on échangeait. Et voilà, c'était une manière de s'enrichir de la culture des uns et des autres.
Vous avez une minute pour répondre aux questions. Deuxième écoute.
Aujourd'hui, comme chaque vendredi, un sujet éducation. Nous parlons des échanges d'étudiants européens, Erasmus, dans les campus universitaires de toute l'Europe. Fête ses 25 ans cette année. Au total, 33 pays, donc une Europe très élargie, plus de 4000 universités et grandes écoles concernées. Erasmus est l'un des plus grands programmes de mobilité étudiante au monde. Alors, comment fonctionne-t-il ? Qu'apporte-t-il aussi sur le plan universitaire, personnel, professionnel ? Est-ce si facile que cela de se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien, dans un système universitaire parfois très différent. En finançant des bourses de mobilité, en tout cas, Erasmus a tenté de forger une véritable identité européenne. Certains d'entre vous sur Facebook s'interrogent aussi sur l'extension d'Erasmus au-delà de l'Europe jusqu'à l'Afrique. Ça existe, ça s'appelle Erasmus Mundus. Amélie Niard, dans sa chronique Info pratique de l'éducation, nous expliquera en détail comment postuler à ces bourses Erasmus Mundus. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission donc pour suivre ces infos-là. Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'un étudiant, ex-étudiant Erasmus. Sylvain a 25 ans. Sur son CV, on peut lire « Master de droit public obtenu à Lille ». Et juste en dessous, une autre ligne, Université de Wrocław. Il rêvait d'étudier aux États-Unis, il a atterri dans une ville de Pologne où il a étudié pendant un an grâce à Erasmus. Sylvain a accepté de rembobiner son histoire polonaise au micro de Vincent Dublange.
On était dans une grande tour d'une vingtaine d'étages. À chaque étage, il y avait des appartements. Et dans les appartements, on était quatre, deux par chambre.
Il y avait combien de nationalités avec toi ? Il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup de Polonais, il y avait quoi, des Australiens, il y avait...
Alors, pour être honnête, ce qui était bien, c'est qu'en français, on n'était pas beaucoup, je veux dire, une petite dizaine. Donc, ce qui était bien, c'était quand on se sentait mal, on avait la nostalgie du pays, ben, on pouvait parler quand même dans un petit groupe. Mais d'un autre côté, on n'était pas assez nombreux pour s'enfermer sur nous-mêmes. C'était le problème des Espagnols. Les Espagnols, ils devaient être 60, voire 70. Pour certains, ils sont restés dans cette communauté, ils n'ont pas pu vraiment échanger avec les autres.
Vous faisiez des choses ensemble dans cette résidence ?
C'était un peu comme une grande colonie de vacances, mais sans adultes et sans moniteurs. Donc évidemment, il y avait des soirées, il y avait beaucoup de soirées qui étaient organisées qui favorisaient les rencontres. Mais aussi, par exemple, on avait une tradition qui s'appelait les repas internationaux. C'est-à-dire qu'on démontait nos portes de chambre pour en faire des tables géantes dans les couloirs.
Et c'était une idée à toi, je crois, de démonter les portes.
Oui, je la revendique, même si à l'époque, je me faisais tout petit, parce que l'administration de la résidence n'appréciait pas plus que ça. Donc chacun ramenait un plat de son pays, et justement, autour d'un repas, on échangeait, et voilà, c'était une manière de s'enrichir de la culture des uns et des autres.
Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Exercice 3. Lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez en cochant la bonne réponse. Vous avez une minute pour lire les questions. Première écoute.
Ariella Mazmounji, bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez été fonctionnaire de l'État et surtout Grand Prix de l'urbanisme en 2016. Alors, que pensez-vous de la gratuité des transports ? Est-ce que c'est une vraie rupture ?
De toute façon, il faut saluer la décision qui est intéressante et qui peut avoir des effets très bénéfiques sur la mobilité, sur la liberté de se déplacer. Est-ce que la gratuité s'impose ? Il y a débat. Parce que ce qui est beaucoup plus important que la gratuité, c'est vraiment d'assurer le transport entre son domicile et le lieu où on veut aller, c'est-à-dire soit le travail, les courses, l'université. Donc c'est la chaîne qui est importante. Et je ne connais pas très bien le Luxembourg, mais ça me paraît difficile pour les gens éloignés de la zone dense de pouvoir se passer complètement de la voiture. Mais j'ai cru comprendre que le Luxembourg développait aussi des parkings relais, ce qui peut assurer le lien entre la voiture et le transport en commun. Encore faut-il pouvoir aller là où on veut aller. Alors, ils annoncent le développement des transports en commun qui va leur coûter assez cher. J'imagine qu'ils anticipent la baisse de l'usage de la voiture, donc la baisse de la pollution. C'est sans doute vraisemblable, mais ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Strasbourg, où les transports en commun dans la ville-centre sont d'une efficacité redoutable, pas très coûteux, ça n'a pas baissé l'usage de la voiture en périphérie.
Vous avez une minute pour répondre aux questions. Deuxième écoute.
Ariel Amazbounji, bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez été fonctionnaire de l'État et surtout Grand Prix de l'urbanisme en 2016. Alors, que pensez-vous de la gratuité des transports? Est-ce que c'est une vraie rupture?
De toute façon, il faut saluer la décision qui est intéressante et qui peut avoir des effets très bénéfiques sur la mobilité, sur la liberté de se déplacer. Est-ce que la gratuité s'impose? Il y a débat. Parce que ce qui est beaucoup plus important que la gratuité, c'est vraiment d'assurer le transport entre son domicile et le lieu où on veut aller, c'est-à-dire soit le travail, les courses, l'université. Donc c'est la chaîne qui est importante. Et je ne connais pas très bien le Luxembourg, mais ça me paraît difficile pour les gens éloignés de la zone dense de pouvoir se passer complètement de la voiture. Mais j'ai cru comprendre que le Luxembourg développait aussi des parkings relais, ce qui peut assurer le lien entre la voiture et le transport en commun. Encore faut-il pouvoir aller là où on veut aller. Alors, ils annoncent le développement des transports en commun qui va leur coûter assez cher. J'imagine qu'ils anticipent la baisse de l'usage de la voiture, donc la baisse de la pollution. C'est sans doute vraisemblable, mais ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Strasbourg, où les transports en commun dans la ville-centre sont d'une efficacité redoutable, pas très coûteux, ça n'a pas baissé l'usage de la voiture en périphérie.
Vous avez une minute pour compléter vos réponses. L'épreuve de compréhension orale est terminée.